En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Voilà, oui, je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce colloque pour parler justement de, étant chirurgien maxillofacial, de cette guerre, de la guerre de 14 et donc qui a été à l'origine d'une partie de la chirurgie que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc on a coutume de dire, et c'est un lieu commun, de dire que à chaque chose malheur est bon, et donc les guerres sont un facteur de progrès dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine de la santé. Et j'aime bien, quand je parle à mes internes, leur citer cette petite phrase d'Ambroise Paré qui dit « J'étais en ce temps-là bien doux de sel, parce que je n'avais encore vu traiter les plaies faites par arquebuse. » Autrement dit, j'ai beaucoup progressé quand j'ai commencé à faire de la chirurgie de guerre. Et voilà, les plaies par arquebuse qui étaient la chirurgie de guerre. Donc, sans parler, bien évidemment, on a encore dit de l'arrêt Percy, les guerres napoléoniennes, on sait aussi que la guerre de 14 a été, sur le plan technologique, un apport considérable, et notamment que ça a été la naissance de l'aéronautique moderne, puisque dans le livre de Jean-Jacques Ferrandis, on voit qu'en 1915, il y avait 158 avions, il y en avait 3600 en 1918, vitesse multipliée par 2, puissance par 3, et le plafond qui était passé de 2500 à 6000 mètres. Donc progrès technologique, mais également progrès dans le domaine médical et chirurgical, avec d'une part des choses qui avaient été qui étaient créées bien avant la guerre de 14, les notions d'antisepsie, d'asepsie, d'antisepsie, mais on va voir, comme l'a dit le général Morillon ce matin, on va développer le côté antisepsie et asepsie avec la méthode de Karel Dakin. Les techniques d'anesthésie, bien entendu, l'anesthésie générale, c'était une vieille découverte qui avait presque un siècle, mais ça, locale aussi, anesthésie locale, mais ça a été employé à une telle échelle que, évidemment, des progrès ont été considérables, de même que, comme René Van Tigelen vient de le dire, en radiologie, mais il y a eu d'autres choses. Mais en dehors de ça, il est apparu des choses nouvelles, et notamment, la guerre de 14 marque vraiment une période charnière dans les lésions qui ont été faites au corps des blessés et par l'emploi énorme, on pourrait dire, comme l'avait précisé ce matin Marc Morillon, de l'artillerie dont les armées étaient surdotées après la période de la révolution industrielle de la fin du 19e siècle. Et Georges Duhamel l'avait bien dit, puisqu'il avait dit « Tous les médecins ont pu remarquer l'atroce succès remporté en si peu de temps par le perfectionnement des engins de dilacération, sans compter aussi l'apparition d'armes nouvelles, comme les mitrailleuses, les lance-flammes, les gaz, qui ont aggravé encore le bilan de cette guerre atroce. » Alors, je passerai très rapidement sur ces notions qui ont été expliquées ce matin. Il faut évidemment se souvenir qu'en 1914, on parle d'un désastre sanitaire parce que l'armée française est prise par surprise et elle va reculer. Et donc, elle va perdre 10 départements, l'équivalent de 10 départements, ce qui va être considérable en termes de lits d'hospitalisation. Donc, il va falloir recréer ces lits. Il y a un grand nombre de blessés, ce qui est une chose, comme on l'a dit ce matin, totalement imprévue. On n'avait pas prévu ça du tout. Une doctrine totalement inadaptée, puisqu'on va très peu équiper la zone des armées pour évacuer le plus rapidement possible ces blessés. On sait que c'était une hérésie. Et puis, apparition de blessures totalement inhabituelles et de blessures, ces fameuses blessures du visage. Alors, l'armée va en prendre la mesure de ça. On va créer des hôpitaux, réorganiser la filière de soins, créer des centres spécialisés pour les blessés du visage. Créer les hôpitaux, bien, c'est augmenter le nombre de lits et en faisant ces hôpitaux, en utilisant les hôpitaux militaires qui existaient déjà, auxquels on associe des hôpitaux complémentaires, qui sont donc des structures à gestion essentiellement militaire, mais créer aussi des hôpitaux temporaires pour la durée de la guerre, ces fameux hôpitaux auxiliaires gérés par les sociétés de la Croix-Rouge, ces hôpitaux bénévoles dont on a parlé ce matin, les hôpitaux mixtes, et des dépôts de convalescence, c'est un peu nouveau ça, pour désengorger les hôpitaux qui sont remplis. Et les quotas sont très importants, parce que Marseille, c'est des quotas par rapport au nombre d'habitants. Donc Marseille, par exemple, il y a 500 000 habitants, il faut trouver 20 000 lits. Aix, 30 000 habitants, il faut trouver 1100 lits. Et d'après le livre de Ollier, que j'ai utilisé largement, à Marseille, il y a eu 106 hôpitaux militaires, c'est-à-dire 106 structures militaires qui ont, pendant la guerre, qui se sont occupées des blessés pendant la guerre. Alors, moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est l'hôpital emblématique, c'est le Grand Palais, hein, sur 20 000 mètres carrés, on met 1000 blessés, une salle de rééducation, une salle d'opération, mais on voit le côté quand même assez réactif de l'armée parce qu'il est inauguré le 11 octobre, c'est-à-dire, hein, la guerre commence en août, donc c'est assez rapide. Donc, on crée des hôpitaux, on réorganise la filière de soins, comme l'a dit Général Morillon, en équipant bien cette fameuse zone des armées avec des équipes chirurgicales, des équipes médicales destinées à faire un premier traitement de qualité avant d'évacuer ces blessés dans leur région militaire. Alors, les blessés du visage. Et les blessés du visage, on s'aperçoit tout de suite qu'il y en a un nombre absolument considérable et donc on va créer des services spécialisés pour ces blessés. Et au début, les premiers services d'ici la fin de 1914 sont créés autour des structures militaires existantes à Paris, autour du Val-de-Grâce, et où c'est Morestin, hein, Hippolyte Morestin, qui va être rapidement le chef de service, mais à l'hôpital La Ribosière, au Kirch Saptal, c'est un ORL, c'est Bilot, l'ICC Michelet, l'école normale supérieure, on se sert de ça, et puis Lyon, autour de l'école de santé militaire, c'est Albéric Pont, et on voit tout de suite l'importance de ces services, parce qu'à Lyon, vous avez 850 lits pour les blessés de la face, à Bordeaux, autour de l'école de santé navale, chez Herpin, 1000 lits, pour s'occuper de ces blessés de la face, donc c'est totalement, absolument énorme. Alors, les blessures du visage, là, je suis obligé de parler un peu de ça. Donc, énormément de blessés, il y a 15% de blessés qui l'ont été au visage, c'est-à-dire 400 000 blessés au niveau du visage. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a deux types de blessures, en gros, pour schématiser. Il y a la blessure par une balle, projectile unique, balle de mitrailleuse, balle de fusil. Elle entre d'un côté, généralement elle sort de l'autre ou elle reste au milieu. Elle ne va pas faire un gros dégât au niveau des tissus mous. Pour peu qu'elle ne soit pas mortelle, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas l'axe carotidien au niveau du cou et que le blessé, malgré son œdème, malgré le saignement, puisse quand même respirer, ce n'est pas mortel. Elle va poser des problèmes qui sont essentiellement des problèmes de fracture des mâchoires, des lésions osseuses qui sont aussi très peu connues par les chirurgiens actuels. Ça, c'est la blessure par balle. Vous voyez qu'en 14, c'est un quart des blessures l'ont été par balle. Et le gros des blessures, c'est par éclat d'obus. Alors là, le problème est totalement différent puisque l'obus va emporter malheureusement une partie du visage de ce blessé. Et là encore, si l'axe carotidien n'est pas touché, si le blessé peut quand même ventiler, il ne va pas mourir, il peut rester plusieurs jours dans le no man's land avant d'être recueilli. Donc, mais de toute façon, quelle que soit la blessure, techniquement, ça va poser des problèmes aux chirurgiens. Alors ces chirurgiens, qui sont-ils? Eh bien, c'est eux qui vont faire fonctionner ces fameux services de chirurgie maxillofaciale. Alors il va y avoir des stomatologistes, c'est une spécialité qui a été créée au début du XXe siècle, des gens qui tournent autour des mâchoires. Et c'est eux qui sont à peu près les mieux formés pour s'occuper des plaies par balle, c'est-à-dire des fractures complexes de la mâchoire. Il y a les otorhinolaryngologistes aussi, qui sont une spécialité voisine, hein, qui sont des cousins, on pourrait dire. Et puis, on va confier ces services aussi aux ophtalmos, c'est-à-dire aux spécialités qui s'occupent de la face, mais aussi aux chirurgiens généralistes. Et puis, au fil de la guerre, on va leur associer les chirurgiens dentistes. Alors, il faut dire qu'au début de la guerre, le chirurgien dentiste n'existe pas pour l'armée. Hein. Il a été incorporé comme brancardier, dans le meilleur des cas. Souvent, il a été incorporé comme simple troufion. Mais au fil et à mesure de l'armée, on va se rendre compte qu'ils peuvent être utiles et on va les associer aux ces fameux services de chirurgien maxillofacial avec leurs aides qui sont les mécaniciens dentistes et ils vont faire d'énormes progrès, notamment pour la prise en charge de ces fractures des mâchoires. Alors par exemple, pour noter le parcours, je me suis intéressé au parcours d'un stomatologiste de la région rémoise qui est incorporé, il était donc chef du service de stomatologie de Reims, il est incorporé en 1914 et il est incorporé sans tenir grand compte de sa spécialité, on le met dans l'ambulance numéro 372 dont on parlait tout à l'heure, et qui est donc une véhicule automobile, mais enfin une structure qui a 100 mètres de long, 8 voitures, 22 chevaux. Il y a 6 médecins et il est là-dedans, autour de Verdun. où il va rester pendant quelques mois avant qu'on le repère et qu'à ce moment-là, à la fin de 1914, on lui octroie un service de chirurgien maxillofacial qui va être commun à celui d'ophtalmo à l'hôpital numéro 4 de Vendin, à côté de l'évêché de Verdun. Et dès la fin de 1914, donc, on lui confie un service de chirurgie maxillofaciale. Alors, ces plaies par balles, donc, ce sont des fractures complexes des mâchoires, et elles vont faire intervenir des gens qui vont s'occuper de la chirurgie de cette fracture, mais aussi des gens qui vont être capables de réaliser des appareils de fixation des mâchoires de façon à faire en sorte que cette fracture elle puisse consolider dans une position qui n'est pas trop mauvaise. Et c'est là que les dentistes, justement, vont être extrêmement intéressants et vont faire énormément de progrès. Alors, quand on est au Val-de-Grâce, quand on a la chance de visiter l'exposition du Val-de-Grâce et les réserves, quand on peut, du musée du Val-de-Grâce, il y a une profusion de matériel qui ont été inventés pendant la guerre de 14 pour traiter ces fractures complexes des mâchoires. Et encore une fois, les dentistes ont pris une part, et les prothésistes dentaires, évidemment, ont pris une part très importante dans ce problème. Alors, un emblématique, alors lui, je l'aime beaucoup, c'est un dentiste américain d'origine arménienne qui avait émigré à la fin du 19e siècle aux États-Unis, qui, à force de volonté, parce qu'il était parti nu et cru de l'Arménie, à force de volonté, a fait ses études. Il a été dentiste. Et en 1914, il était dentiste à Boston, en ville. Et en 1914, l'université d'Harvard, malgré le fait que les États-Unis ne voulaient pas participer à la guerre, voulaient rester neutres, les gens d'Harvard se sont dit « mais on ne peut pas laisser nos copains d'Oxford, de Cambridge se laisser taper sur la figure comme ça, il faut qu'on les aide ». Donc on a levé des fonds et on a levé un hôpital, on a créé, donc sur des fonds privés, un hôpital bénévole de 1000 lits sous tente qui s'est positionné par l'intermédiaire du corps expéditionnaire britannique dans la région de Boulogne-sur-Mer. Et ils ont recruté 4 dentistes. Et lui, ce Kazandjian, il a été dans cet hôpital militaire américain. Et puis, par la force des choses, par les événements, il a été en contact avec ses blessures de la face et ses fractures complexes des mâchoires. Comme personne ne savait les traiter, que lui était un type très dégourdi, petit à petit, il a commencé par les traiter, à les opérer. Et il a eu des résultats absolument extraordinaires, à tel point qu'il a traité 3000 blessés, à tel point que à la fin de la guerre, il a été décoré par le roi George V, je crois, d'une décoration extraordinaire. Alors, il est rentré aux États-Unis, donc il a eu une expérience chirurgicale extrêmement formidable, mais il n'était que dentiste quand il est revenu aux États-Unis, donc il n'avait pas le droit d'opérer, ce qui était un peu problématique. Donc, il a fait sa médecine, il a passé après les concours, l'assistanat, le professorat et tout, et il est devenu le type qui faisait des miracles sur le front de l'Ouest, et le génie de la chirurgie plastique, et il a eu une carrière absolument extraordinaire. C'est un des pionniers de la chirurgie maxillofaciale. Donc, il n'y a pas eu que lui. Lui, c'est la carrière emblématique, mais il y en a eu beaucoup d'autres qui ont commencé comme simples médecins pendant la guerre et qui ont fait des progrès absolument considérables dans leur pratique. Alors, autre chose, c'est la plaie par éclat d'obus. La plaie par éclat d'obus, c'est totalement différent. C'est-à-dire que si vous promenez, comme je l'ai fait à Verdun, là, où on peut aller, parce qu'il y a encore des endroits où on ne peut pas aller, il y a une zone rouge où on ne peut pas pénétrer, vous pouvez trouver encore des morceaux d'éclat d'obus. Ça pèse 200 ou 300 grammes. C'est encore, un siècle après, c'est encore tranchant comme une lame de rasoir. Et on imagine ça à pleine vitesse dans la figure, et on va voir ces plaies par éclat d'obus qui sont caractérisées à ce moment-là par la perte de substance. Il manque des choses, il manque de la peau, il manque des muscles, il manque de l'os. Et ça, ça va être très compliqué. Alors au début, les chirurgiens ne savent pas que faire. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer, ils vont prendre des gros points, et ils vont fermer cette perte de substance, qui est une hérésie, ce qui est totalement désastreux, parce qu'au contraire, il ne faut pas la fermer, il faut rajouter quelque chose. Et assez rapidement, on va se rendre compte qu'il faut faire différemment, c'est-à-dire faire un traitement primaire dans cette zone des armées, justement, s'occuper de cette plaie, la déterger. Cette plaie est souillée, il y a des débris telluriques, il y a des débris de terre, il y a des débris de vêtements, donc il faut nettoyer ça, inonder ça avec cette fameuse solution de Carrel d'Aquin, et puis une fois que cette période est passée, au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, eh bien, diriger ces blessés dans la zone de l'intérieur, dans des services spécialisés, dont le Val-de-Grâce et puis les autres services, où là, évidemment, les praticiens vont inventer une chirurgie, puisqu'elle n'existait pas jusque-là. Alors, cette chirurgie réparatrice, elle va consister à réparer l'os. C'est ce qu'on va faire. On va faire des greffes osseuses. Alors, les greffes osseuses, il faut dire que c'est quelque chose qui était connu déjà un peu avant la guerre. Il y avait eu un congrès avant la guerre. Et là, ça va être employé à très, très grande échelle. Alors, on essaie un peu tout. On essaie le cartilage, alors même le cartilage d'animal. On va essayer de mettre du cartilage de porc, du cartilage de veau. Et puis, on essaie l'os. Et puis, on se rend compte que ce qui marche le mieux, c'est encore l'os autologue, l'os du blessé. On va lui faire des prélèvements de côte, des prélèvements de crâne-tibiaque. Et puis, ce qui marche un peu mieux, c'est quand on prend de l'os, le tibia, par exemple, on ajoute un peu de périoste. Mais, de toute façon, les résultats sont assez mauvais. Alors ils sont assez mauvais pourquoi ? Ben pour deux raisons. D'une part parce que l'os c'est quelque chose de très sensible à l'infection et on n'a pas de moyen d'infection, enfin de lutter contre l'infection. Et puis aussi par les problèmes d'anesthésie, c'est-à-dire comme vous l'a montré ce matin le général Morillon, l'anesthésie c'est une anesthésie par inhalation. On met un masque sur la figure, on fait respirer le gaz, mais quand il faut opérer la figure, ben on est gêné, il y a le masque au milieu, donc il faut l'endormir, enlever un peu le masque, commencer à opérer, dès qu'il se réveille, paf, remettre le masque, enfin c'est pas très confortable. Bon.
Il n'y a pas de problème de rejet aussi, non ?
Ben là, il n'y a même pas le temps d'avoir les rejets là, parce que ça va se... Oui, bien sûr, non, l'os autologue, non, sur le blessé lui-même, non. Donc, on fait cette technique-là, beaucoup d'échecs, mais quand même, on a posé les bases de la chirurgie, et quand on aura les conditions, vont s'améliorer. Alors, les bases de la chirurgie, c'est Ginesté, qui est un chirurgien, il n'est pas trop, c'est plutôt la génération après la Première Guerre mondiale, mais il va poser les problèmes, il va le dire très bien, vous savez, en médecine, quelquefois, il y a des aphorismes comme ça qui sont intéressants, et Ginesté, il dit, pour qu'une greffe osseuse marche, il faut un bon lit et une bonne couverture. Et il a tout à fait raison, parce qu'il faut un bon lit, c'est-à-dire il faut un environnement dans lequel on va la mettre qui est sain, qui n'est pas infecté, qui est sain, qui est bien vascularisé. Et il faut une bonne couverture, c'est-à-dire il faut que ça soit bien exclu du milieu extérieur, qu'on puisse bien fermer, qu'il n'y ait pas de possibilité de microbes de pénétrer. Et donc ça, quand va arriver après, entre les deux guerres, les techniques d'anesthésie qui vont être meilleures, l'intubation orotrachéale qui va supprimer ce problème de masque qu'on enlève et qu'on met, et puis la découverte des antibiotiques, eh bien, ces techniques de greffe vont alors devenir extrêmement performantes. Donc on s'occupe de l'os, et puis il faut s'occuper des tissus mous, c'est-à-dire fermer cette plaie. Alors quand cette plaie n'est pas trop importante, eh bien, on va se débrouiller, on va tirer, pousser, on va essayer de comme on dit, rapetasser un peu, ravauder un peu, en faisant des petits lambeaux. Alors tout ça, ça se fait encore. Ça a été créé à ce moment-là, ce sont des procédés qui se font encore, les plasties en Z, en VY, les greffes dermo-épidermiques. Et un des grands pontes là-dedans, c'est Morestin. Alors si vous avez vu le film qui a été tiré du roman de Marc Duguin, La Chambre des officiers, Morestin, il est campé par Dussolier, assez prétentieux, ce qu'il était, paraît-il. Et donc, il était chef du service du Val-de-Grâce et il faisait ce qu'on appelle les autoplasties en jeu de patience. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Quand le trou est trop important, eh ben, il faut faire un transfert tissulaire, c'est-à-dire amener, fermer cette vaste paire de substances par ce qu'on appelle un lambeau. Alors, on se rappelle qu'on sort des oubliettes un travail d'un Italien qui est Gaspare Tagliacozzi, chirurgien de la Renaissance, dont vous avez le portrait dans le musée d'histoire de la médecine à Paris Descartes, qui était titulaire de la chaîne de chirurgie et puis d'anatomie de l'Université de Bologne. Il avait décrit à son époque un procédé destiné à réparer les paires de substances de la pyramide nasale ou de la lèvre supérieure en se servant de la peau du bras. Alors, l'embêtant, c'est qu'il faut que le patient garde le bras collé sur le nez pratiquement pendant un mois. Et c'est pour ça qu'il a ce système-là. Et voilà. Alors on sort ce travail, mais on va le faire. On va le faire, et vous avez ici, en 1914-1918, un blessé qui est traité comme ça, avec son bras immobilisé pendant un mois. Puis au bout d'un mois, on détache le lambeau, et à ce moment-là, il reprend l'usage de son bras. Mais vous voyez que là, c'est une photo d'un blessé des gueules cassées qui m'a aimablement transmis ces photographies, blessé pendant la guerre d'Algérie, et qui, pendant la guerre d'Algérie, a eu exactement cette même technique en deux temps avec ce lambeau qu'on transférait comme ça. Et puis, il y a les lambeaux à distance aussi. Alors, il y a des gens qui vont inventer, on va en citer deux, pour un Français qui est Léon Dufour-Mantel, qui avait beaucoup travaillé à Chalon-sur-Marne. Et lui, il imagine un lambeau en jugulaire, on pourrait dire, on va se servir de la peau du cuir chevelu, qui va être rabaissé au niveau de la face, qui va pouvoir permettre de réparer la région labio-mentonnière, la région labiale supérieure. Et puis, une fois qu'on aura sectionné la partie donnante, on va remettre en place la partie donneuse. C'est un lambeau qui a eu énormément de succès et vous l'avez matérialisé au Val-de-Grâce sur des cires où on voit la zone de prélèvement du lambeau pour reconstituer une région labio-mentonnière inférieure. Et puis alors le grand monsieur de ces lambeaux, c'est un néo-zélandais qui a fait quand même toutes ses études à Oxford et qui était ORL et qui s'appelle Gillies, qui a inventé des lambeaux destinés à se servir de la peau qui est prélevée au niveau du thorax ou au niveau de l'abdomen pour fermer ces pertes de substances. Il a eu l'originalité, on a mis à sa disposition, il a créé un hôpital dans la banlieue de Londres qui a été le Queensberry Hospital, qui a été dédié uniquement aux blessures maxillofaciales. Et il a été ennobli, d'ailleurs, à la fin de la guerre. C'est un monsieur très important dans cette chirurgie-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces lambeaux que je vous ai montrés, là, le lambeau de Dufour-Mantel, tous ces lambeaux-là, eh bien, ils ont été utilisés pendant pratiquement les trois quarts du XXe siècle, jusque dans les années 70-80. Moi, je me souviens que, petit interne, j'ai vu mon patron faire encore des lambeaux tubulés. Dans les années 80, on a découvert autre chose. Et à ce moment-là, ils ont été inutilisés. Mais enfin, ils ont servi pendant tout ce temps-là. Donc, c'était ces fameux lambeaux cylindriques qu'il avait utilisés pour la première fois sur un aviateur qui avait été brûlé. Et il a imaginé ces lambeaux à ce moment-là. Et puis quand on ne sait plus que rien faire, eh bien on utilise la prothèse. Et c'est pour ça, là encore, que dans ce domaine-là, les dentistes et les prothésistes dentaires ont éminemment été très importants pour réaliser ces prothèses qui donc refaisaient un œil, une oreille, une face. Le problème de la prothèse étant pas tellement la prothèse elle-même, parce qu'elle était très bien réalisée, elle refaisait parfaitement le nez, les oreilles, la voix, mais c'est le matériau dans lequel c'était fait. Parce que le matériau était toujours très visible. Alors on fait des tentatives avec la porcelaine, la vulcanite, le celluloïde, le métal souple plat, mais c'est vraiment, c'est facile de dire, on voit ça comme le nez au milieu de la figure, mais c'est vraiment, on ne voit que ça. Et donc il y a un chirurgien qui avait dit à propos des blessés de leur prothèse, ce blessé, quand il ne met pas sa prothèse, il est absolument horrible, et quand il met sa prothèse, il est ridicule. C'est pour ça que très souvent, les blessés ne les mettaient pas et mettaient le pansement avec. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous ces grands blessés faciaux? Il y en a 25 000, hein, donc lorsqu'ils vont être rendus, comme on dit, à la vie civile. Alors, vous voyez ici les 5 grands blessés qui ont été placés intentionnellement par Clémenceau à côté de la table des plénipotentiaires pour dire, c'est tellement horrible que ça ne se reproduira plus. C'est le fameux Derdéder, hein, on sait ce qu'il en a été. Et puis alors, ces blessés, ils vont être rendus à la vie civile, ils vont rentrer chez eux. Et chez eux, soit ça peut bien se passer, pour certains, la famille va les reprendre et s'occuper d'eux, mais pour d'autres, ils vont être complètement rejetés. La famille ne les reconnaît pas, ils sont hideux, ils sentent mauvais, ils sont baveux, ils sont horribles, et la famille ne les reconnaît pas, ils restent comme ça. Ce qui a très bien dit ce blessé du visage, hein, « Mets-toi dans le masque effroyable et défiguré par l'horreur, semblable au monstre de la fable dont les petits-enfants ont peur. Hein, » Je crois que ça, on ne peut pas dire mieux. Et donc, ces blessés vont rester un peu sur le carreau, et ils vont être récupérés, ils vont se réorganiser après la guerre dans une union des blessés de la face et de la tête, avec 3 grands blessés, le colonel Picot, Jourdain Jugon, qui va être l'union des blessés de la face et de la tête. Le but, créé en 1921, le but c'était de s'entraider, d'entraider, de prendre en charge ces blessés, mais aussi de faire reconnaître par les pouvoirs publics, et l'armée en particulier, la défiguration, parce que ça n'existait pas. On savait, il y avait une rente pour un blessé qui avait perdu une main, un pied, mais la défiguration n'existait pas. Donc ça a été une de leurs motivations. Ils ont eu, alors elle était jolie, cette jolie formule qui était leur devise, sourire quand même. Ils ont vécu un peu d'expédients, comme beaucoup de ces associations. Hein, elle a vécu d'expédients, elle faisait des kermesses, on faisait des spectacles par-ci, par-là. Ils ont eu la chance d'avoir une riche américaine qui leur a fait un legs très important. Ils ont pu acheter, à côté de Roissy, un château avec une grande propriété autour, agricole, où ils faisaient travailler leurs blessés. Et puis tout a changé quand en 1930-32, à la création de la Loterie nationale, on a octroyé à cette Union des blessés de la FAS une petite participation au bénéfice de la Loterie nationale. Ils ont créé avec ça des billets, le dixième de la Loterie nationale. Alors c'est des billets qu'on pouvait acheter, qui coûtaient le dixième, mais on gagnait évidemment le dixième du gros lot. Quoi. Mais enfin, c'était quand même très intéressant. Et ça a permis, sur le plan financier, de bien faire fonctionner cette association qui a acheté après un autre domaine dans le Var, près de Toulon, au Coudon, un très beau domaine aussi qui sert de lieu d'accueil pour ces gueules cassées. Alors en 2001, leur histoire, ils existent toujours, cette association des gueules cassées, et en 2001, l'association a créé une fondation des gueules cassées, fondation qui est destinée à soutenir les projets de recherche sur... pas que la chirurgie la fasse, mais sur la réanimation des traumas crâniens, sur la rééducation des traumas crâniens. Enfin, et c'est une fondation qui marche très très bien, puisque dans cette année, en 2015, elle a soutenu 50 projets de recherche chirurgicale, et le coût, c'est 1 500 000 euros. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'associations qui, en France, donnent par an 1 500 000 euros pour la recherche. Donc ces blessés, pour conclure, ces blessés, ben c'est un peu international, hein, cette blessure faciale. Il ne faut pas les oublier, et je suis très content chaque fois d'en reparler. Georges Duhamel avait particulièrement bien saisi le problème. Hein, ce qui leur fut ravi, ce n'est pas une jambe, un bras, ce n'est pas une chose si précieuse, malgré tout un peu étrangère. C'est l'aspect même de leur âme, c'est leur ressemblance à la divinité. Alors il faut continuer à en parler, et parce que ben, leur souffrance n'a pas été inutile, puisque... Eh bien, en 2005, hein, ça fait 10 ans, on a fait en France le dernier progrès, on pourrait dire, de cette chirurgie, qui est la greffe de visage, cette première greffe partielle de visage chez une... Alors, c'était une civile, hein, une malade civile, puisqu'elle avait été donc défigurée par son chien. Elle n'avait pas de problème osseux, mais c'était un énorme problème de tissu mou et des structures extrêmement difficiles à refaire que sont la sangle labiale et la pyramide nasale, et qui ont été réparées en faisant une greffe. Parce qu'on ne peut pas réparer une sangle labiale, une pyramide nasale de façon très correcte, je dirais, en faisant un lambeau, en amenant de la peau. Ce n'est pas avec la peau du ventre qu'on va refaire une sangle labiale. Alors que là, ben, on va se servir de structures exactement identiques qui vont être prises sur un donneur, et où on va recoudre évidemment tous les petits muscles, les petits vaisseaux, les petits nerfs, de façon à ce qu'après, ben, elle puisse ressembler encore à quelque chose. On la voit avec son greffon au tout début, et puis on la voit un peu plus tard, où ce greffon commence à se naturaliser. Et alors pour conclure, c'est un petit clin d'œil, si on peut dire, il faut savoir que cette greffe qui a été faite par un chirurgien français, qui est Bernard de Vauchel, qui est un chirurgien maxillofacial, eh bien, il n'est pas chirurgien n'importe où, il est chirurgien à Amiens, et Amiens, c'était un des centres maxillofaciaux pendant la guerre de 14, où ils ont vu passer un nombre absolument considérable de ces blessés par gueule cassée. Voilà, donc je vous remercie.
Merci à vous. Je ne connaissais que le dixième de la Loterie nationale, voilà, ça me rappelle mon enfance. Ma mère avait l'habitude d'acheter ce dixième, elle n'a jamais gagné d'ailleurs.
Maintenant ils sont actionnaires de la Française des Jeux.
Oui. C'est pour ça qu'ils ont créé la fondation, parce que je crois qu'ils ont maintenant, ils n'ont plus automatiquement une part du loto.
Absolument.
Quand même des sommes
Absolument.
Considérables.
Ce sont des sommes très importantes, et il est donc... Voilà.
Quelqu'un veut... Oui, je vous en prie.
Oui, si vous puisque vous avez souligné le rôle des dentistes là, au début de la guerre, c'est quelque chose aussi qui n'est pas très, très bien connu. Les dentistes ont été extraordinaires. Il y en a qui ont été mobilisés comme simples fantassins, mais qui avaient quand même emmené leur matériel avec eux au cas où, et qui, dans la tranchée, n'importe où, soignaient leurs camarades, alors qu'on leur avait rien demandé du tout. C'était vraiment simplement leur conscience professionnelle. Et ensuite, pendant la guerre... Les services de prothèses, etc., parce qu'il y avait énormément de soldats édentés qui ne pouvaient plus servir, et on estime que les dentistes ont à peu près récupéré l'équivalent d'un corps d'armée en les remettant sur pied.
Oui, oui, parce qu'il y avait ce fameux problème des édentés inaptes, c'est-à-dire que quand un blessé, on faisait un conseil de révision, par exemple, si vous n'aviez pas suffisamment de dents en haut et en bas, Alors c'était, on vous considérait comme édenté inapte, ça datait du temps où il fallait, avec les dents, ouvrir le petit flacon, enfin le petit sachet de poudre pour remplir le fusil avec la poudre. Et donc, effectivement, il y avait énormément de gens qui pouvaient servir. C'est toujours
il faut avoir un certain... Pour l'aptitude physique, il faut avoir un état des dents satisfaisant. Hein, il y a un nombre de dents... Si vous avez moins de 4 dents, je crois, vous êtes inapte à faire campagne.
Oui. Enfin, là, c'est à cause du coefficient masticatoire, c'est-à-dire que le soldat ne pourra pas se nourrir avec ce qu'on va lui distribuer comme à tous les autres. Donc on est bien obligé de les sélectionner là-dessus.
Dans la marine de guerre, en tout cas, jusqu'à une période relativement récente, c'était jusqu'au, à mon avis, 19e siècle, c'était une marine sans dents. Parce qu'avec le scorbut, ils n'en avaient plus de dents. Et alors du coup, c'était une marine sans dents, y compris dans les officiers généraux et autres. Et donc, ce qu'il y avait, c'est que dans les rations, il y avait, donc normalement c'est biscuit qui est obligatoire, donc il y avait les rations de pain pour eux, spécifiques, et le biscuit, bon, on le trempait dans l'eau, mais c'était le pain pour les sans dents. Excusez-moi. Quelque chose à propos de ces histoires de blessés de la face qui effectivement n'étaient pas considérées comme des blessures invalidantes. Et on a le cas de, je ne me souviens plus du nom de l'amiral, qui pendant la bataille de Trafalgar a perdu son nez. Et dans l'Ancien Régime, quand on coupait le nez, c'était un acte, c'est un châtiment. Et ça, donc du coup, la perte du nez mettait mal à l'aise tout le monde parce que c'était assimilé en fin de compte à un châtiment ancien, etc. Je ne me souviens plus de son nom. Et Napoléon, de toute façon, lui en a voulu à mort puisqu'il a quitté Trafalgar blessé, donc de la face, donc plus de nez. Et il a considéré qu'il s'était gobergé sur les bateaux de la Royal Navy et ne lui a jamais pardonné. Voilà.